Vous écoutez, on lit pour vous.
Convainc-moi qu'un réseau social québécois peut pogner. Un texte d'Alexandre Sirois, paru le 11 juillet 2025 dans La Presse. On parle de souveraineté numérique, mais c'est vraiment une question de souveraineté nationale. En ce moment, des ministres, des maires doivent, pour parler aux gens qui les ont élus, passer par des plateformes étrangères. C'est aberrant. Patrick Pierrat est président du conseil d'administration de la coopérative de solidarité La Nouvelle Place, qui souhaite lancer un réseau social conçu ici pour les Québécois et les francophones d'un bout à l'autre du pays. Le projet a été lancé il y a tout près de 2 ans, quand Meta a décidé de bloquer le contenu des médias sur Facebook et Instagram au Canada. On voit que ça n'est pas juste une menace théorique. Ces entreprises contrôlent de façon très fine le type de communication que les gens peuvent avoir entre eux, les informations qui circulent et les règles qui président aux échanges, affirme Patrick Pierrat. Je vais vous le dire bien franchement, l'idée d'un réseau social conçu ici me semble excellente. On n'imaginerait pas que tous nos réseaux de télévision, nos postes de radio ou nos journaux appartiennent à des entreprises étrangères. Et après avoir constaté les dégâts des géants contrôlés par ceux que l'essayiste Giuliano da Ampoli qualifie de « seigneur de la guerre numérique », souhaiter se libérer de leur emprise est plus que légitime. Patrick Pierrat ajoute qu'il juge indispensable d'avoir une ou des options qui reflètent davantage les valeurs, les pratiques, les habitudes, la culture, l'histoire et la langue des populations locales. Ces arguments sont convaincants, d'autant qu'il y a quelque chose de choquant à l'idée que tant d'entreprises d'ici versent des sommes importantes à ces géants du numérique pour acheter de la pub, faute de solutions de rechange. Ce qui alimente mon scepticisme est ailleurs. Jusqu'à quel point y a-t-il un appétit suffisant au Québec pour de telles options? Facebook, X, Instagram ou encore TikTok sont devenus incontournables. Pas seulement au Québec, mais partout sur la planète. Dans ces circonstances, comment un réseau social conçu ici peut-il pogner? Comment peut-il se rendre indispensable, comme disons Facebook? C'est vrai que c'est un pari quand même ambitieux et difficile. Maintenant, on n'a pas besoin de remplacer et d'égaliser toutes les fonctionnalités de tous les médias sociaux existants pour avoir fait une avancée. L'idée, c'est de commencer quelque part, lance Patrick Pierrat. Je me fais l'avocat du diable. Je cite la création du réseau social Blue Sky qui, en 2024, souhaitait susciter l'adhésion d'une masse critique d'utilisateurs frustrés par X et par son propriétaire, Elon Musk. Blue Sky est un succès d'estime, mais il demeure nettement moins populaire que X. Mais là où je vois le verre à moitié vide, Patrick Pierrat le voit à moitié plein. Blue Sky a prouvé que déplacer des gens, c'est possible, dit-il. Il faut y aller étape par étape. Apprendre à marcher avant de courir. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a tout à fait un potentiel pour aller chercher une large audience. Il n'est pas seul à croire qu'un réseau social fait ici est essentiel pour le Québec et pourrait parvenir à se démarquer. C'est aussi le cas de Philippe Larose-Cadieux, qui a cofondé et qui dirige le réseau social K-Lub, lancé en février 2025. En l'interviewant, je constate rapidement que ses objectifs sont similaires à ceux des créateurs de La Nouvelle Place. On trouvait ça important de dire qu'il fallait qu'il y ait une souveraineté numérique et de pouvoir avoir un réseau indépendant des Américains pour soutenir l'information locale, explique Philippe Larose-Cadieux. Les responsables de QLUB n'ont pas créé de toutes pièces une nouvelle plateforme. Leur réseau est basé sur Mastodon, un site de micro-blogage lancé par un développeur allemand en 2016. Visuellement, les utilisateurs de X ne seront pas dépaysés par KLUB. Mais il y a des différences majeures entre les deux réseaux, outre le fait que le premier est dirigé par un entrepreneur incontrôlable. Sur KLUB, il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas de publicité. Les gens se construisent un flux d'actualités en fonction de leurs intérêts et de l'information qui vient d'ici, précise Philippe Larose-Cadieux. Peu après son lancement, KLUB s'est retrouvé sous les projecteurs. Il a atteint un pic de près de 20 000 utilisateurs actifs. Actuellement, toutefois, ce nombre a chuté et tourne autour de 2 000, précise le cofondateur du réseau. C'est un peu l'œuf ou la poule, dans le sens que s'il n'y a pas assez de monde, il n'y a pas assez de contenu, et s'il n'y a pas assez de contenu, il n'y a pas assez de monde, résume Philippe Larose-Cadieux au sujet de la complexité de lancer un nouveau réseau. Il demeure toutefois optimiste quant aux chances de succès de KLUB. Il y a un intérêt de la part des Québécois pour avoir une solution qui est francophone, où ils peuvent avoir accès à l'information locale. Maintenant, l'idée, dans le fond, c'est de continuer à l'entretenir et de la faire perdurer. Verdict. Il y a bien des manières de ne pas réussir, mais la plus sûre est de ne jamais prendre de risques, disait Benjamin Franklin. Comment ne pas saluer le combat mené par ceux et celles qui veulent qu'un réseau social conçu ici dame le pion à ceux qui appartiennent à des intérêts américains et chinois. Mais pour que ça fonctionne, il faut qu'un nombre important d'utilisateurs de Facebook, X et autres TikTok l'adoptent. Et ça, ça ne se fera pas en criant lapin. Est-ce que ça veut dire que c'est une utopie? Pas nécessairement. Mais la marche est haute. Il faudrait trouver un moyen de créer un réel engouement autour d'un réseau social québécois. Ensuite, si la question de la souveraineté numérique nous préoccupe vraiment, en tant que citoyens, nos bottines devront un jour suivre nos babines. C'était « Convainc-moi qu'un réseau social québécois peut pogner ». Un texte d'Alexandre Sirois paru le 11 juillet 2025 dans La Presse.
C'est pas dans le dictionnaire. Un texte de Mireille El-Chakar paru le 28 juin 2025 dans Le Devoir. Le fait que Chill soit entré dans le Petit Robert ne cautionne-t-il pas son emploi? C'est à peu près dans ces mots que Patrice Roy me demandait de commenter les ajouts dans la dernière édition du Petit Robert au Téléjournal du 14 mai 2025. C'est un rituel. Chaque année, les médias québécois nous font part des nouveaux mots qui entrent dans le Petit Larousse et le Petit Robert. Que la nouvelle se soit même fait une place au Téléjournal témoigne de l'intérêt très marqué des francophones pour l'objet dictionnaire. Patrice Roy n'est pas le seul Québécois à être perplexe face à l'arrivée de « chill » dans le Petit Robert. Rassurons-nous, cela ne signifie pas qu'on peut l'employer en toutes circonstances. Le dictionnaire général n'a pas pour vocation de nous indiquer comment parler. Il nous indique plutôt comment on parle. C'est un reflet de la langue dans une communauté à un moment donné. Un genre de polaroïde de l'usage. Et dans l'usage, il y a des mots de tous les registres. Les nouvelles entrées des dictionnaires résultent parfois de changements dans la société. Migro-agression atteste d'une plus grande sensibilité aux minorités. Soumission chimique rappelle la sordide histoire de Gisèle Pélicaud et du procès de Mazan. Néo-banque désigne une réalité rendue possible grâce aux avancées technologiques. Ce n'est cependant pas toujours le cas. Cette année, pelleteux entre au Robert avec l'expression québécoise « pelleteux de nuages ». Il ne s'agit pas exactement d'une nouveauté. Pourquoi l'avoir ajouté maintenant? C'est que les dictionnaires produits en France décrivent en priorité le français de Paris et non le français en général. Si les maisons Larousse et Robert saupoudrent leurs pages depuis plusieurs années de mots de la francophonie, leur sélection ne répond pas à une logique quelconque. Ce ne sont pas des néologismes dans leur région d'origine. Parmi les usages québécois ayant reçu l'honneur d'accéder à la nomenclature du Petit Robert se trouve « cône orange ». Un ambassadeur un peu moins intéressant de notre culture que le dramaturge Michel-Marc Bouchard ou le parolier Luc Plamondon, qui ont tous deux fait leur entrée parmi les noms propres du Petit Robert illustré. J'avoue toutefois avoir ressenti une certaine fierté à voir parmi les ajouts hyper-trucage et balado, deux propositions de l'Office québécois de la langue française, OQLF, pour remplacer les anglicismes deepfake et podcast. Toutefois, ces équivalents français ont beau avoir pénétré les pages de l'insigne Maison Robert, cela ne signifie pas qu'ils sont employés en France, où les anglicismes sont mieux acceptés. D'ailleurs, si « chill » a autant fait réagir au Québec, c'est justement que la question des anglicismes est un des points où la norme n'est pas la même en France et au Québec. Il ne faudrait pas non plus interpréter l'entrée de « gravel », « prompté » ou « débonqué » dans le Petit Robert comme un chèque en blanc en leur faveur. Au Québec, télésouffleur est attesté depuis 1983. On peut remplacer « gravel » par plusieurs propositions, dont « vélo toute route » ou « vélo de gravier ». La proposition « vélo de route tout terrain » pêche par sa longueur. Et je ne doute pas que les terminologues de l'OQLF feront une proposition plus séduisante que la recommandation française « démystifier » pour remplacer « débunker ». Pourquoi pas débusquer? Le Petit Robert et le Petit Larousse sont évidemment d'excellents ouvrages. Ils ont établi les standards de ce que sont de bons dictionnaires généraux pour la langue française. Néanmoins, une littérature scientifique très abondante démontre que les dictionnaires produits en France ne décrivent ni la norme ni les usages du Québec de manière satisfaisante. Cela se constate pour le vocabulaire général. Ainsi, « présentement » et « ennuyant » sont marqués « vieux » dans le Petit Robert, alors qu'ils sont d'usage général au Québec. Il ne faudrait pas en conclure que notre langue est inadéquate, mais simplement que ces mots, jadis plus courants en France, le sont moins aujourd'hui, alors qu'ils ont gardé leur vitalité ici. Le décalage entre la description des dictionnaires de France et les usages québécois se ressent encore davantage pour le vocabulaire désignant des réalités propres au territoire. Les travaux de Louis Mercier ont permis de saisir l'ampleur des différences qui concernent le vocabulaire de la faune et de la flore. On cherchera en vain dans le Petit Robert nos Junco, Maisongais et Carouge nord-américains, et notre huard y est décrit comme le plongeon arctique. les ornithologues amateurs trouveront davantage leur compte dans son dictionnaire historique des noms d'oiseaux du monde ou dans le dictionnaire général du français québécois, UCITO, à la création duquel il a participé. À ces éléments déjà complexes s'ajoute l'arrivée des dictionnaires gratuits en ligne produits par des non-professionnels. Ceux-ci s'additionnent à une offre déjà abondante. On se doute bien que taper « dictionnaire » dans le furteur ne nous assure pas de consulter une ressource de qualité produite par des lexicographes professionnels. Mais il y a des panneaux où il est plus facile de tomber. Pour concurrencer les nouveaux ouvrages gratuits en ligne, les maisons Robert et Larousse offrent en ligne des versions édulcorées de leurs ouvrages phares. Or, le traitement n'est pas équivalent. Les petits Robert et petits Larousse illustrés ne sont pas consultables gratuitement en ligne. En attendant la prochaine cuvée de nouveautés dans le petit Robert, allons jeter un œil aux ressources québécoises de grande qualité, comme celle de l'OQLF et le UCITO. C'était « C'est pas dans le dictionnaire », un texte de Mireille El-Chakar, paru le 28 juin 2025 dans Le Devoir.
L'intelligence artificielle pour se confier, est-ce une bonne idée? Un texte de Steve Audet, paru le 11 septembre 2025 dans Le Devoir. De plus en plus de gens utilisent l'intelligence artificielle, IA, pour se confier et semblent l'apprécier. Or, plusieurs signaux nous incitent à nous méfier. Après avoir testé des IA et avoir entendu différents témoignages dans ma pratique professionnelle dans la dernière année, je vous fais part de mon avis sur le phénomène. L'an dernier, lorsqu'on soumettait une situation personnelle à une IA générative, elle répondait de manière standard. 1. Elle validait l'émotion de la personne. 2. Elle validait sa perception de la situation. 3. Elle lui suggérait d'en parler avec un ami. 4. Elle lui indiquait de consulter un professionnel de la santé au besoin. 5. Elle n'entamait pas de discussion ou était sur les freins. Or, depuis quelques mois, les trois derniers paramètres ont disparu. Ces IA ne conseillent plus systématiquement à l'internaute d'en parler avec un ami ou un professionnel. Elles se permettent même de jouer au psy en proposant des analyses, des pistes de réflexion et des solutions à expérimenter. Qui plus est, elles ont amélioré leur capacité à utiliser les techniques de la relation d'aide, à analyser les situations et à proposer des pistes de solutions. Elles ont toutefois plusieurs limites dont il faut tenir compte. Naviguer entre les forces et les limites des IA n'est pas simple, car lorsqu'on se confie à une IA, des émotions introduisent un biais dans notre perception de leur réponse. Voici quelques problèmes qui peuvent survenir lorsqu'on se confie à une IA. Je les formule sous la forme de propos que j'ai entendus. L'IA me comprend mieux que mes proches. Il y a une différence entre se sentir compris et comprendre. L'IA ne vous comprend pas. Elle analyse des données et vous les reformule avec des mots semblables. Nous nous sentons alors compris et validés dans notre vécu, même si nos perceptions sont erronées. L'IA est programmée pour éviter les propos qui pourraient nuire aux liens de confiance. Vos proches n'hésiteront pas à vous le dire si votre propos est erroné ou exagéré. L'IA me connaît mieux que mes proches. C'est faux. L'IA n'a pas autant d'informations sur votre histoire que vos proches, qui vous connaissent depuis plusieurs années. Cependant, l'IA peut reformuler de façon plus claire vos perceptions, vos émotions et vos besoins en lien avec une situation que vous lui exposez. Cela vous donne l'impression que l'IA vous comprend et qu'elle vous connaît. Or, elle n'a fait qu'analyser les informations que vous lui avez présentées. Mais il s'agit d'informations partielles et non contextualisées. Cela dit, il n'est pas impossible qu'éventuellement l'IA croise plusieurs informations à votre sujet pour accroître sa puissance d'analyse, mais vous pouvez lui demander de ne pas le faire en démarrant une nouvelle recherche. L'IA a les réponses, alors pourquoi se forcer? Il faut beaucoup d'efforts pour mieux se connaître et développer des compétences relationnelles, écoute, empathie, expression de soi, résolution de conflits, etc. Si vous appréciez ces compétences chez les autres, ils les apprécieront chez vous aussi. C'est en affrontant les situations adverses que nous développons ces compétences. Nous apprenons à être en relation avec nos proches, à construire une relation à la fois et à faire des deuils. Vous n'aurez jamais de conflit avec une IA, mais est-ce la réalité de nos relations humaines? Je n'ai plus besoin de me confier à des proches. L'IA est meilleure. L'IA est formée pour vous mettre en confiance en validant vos propos sans jamais les contredire. Parler avec un proche ou un professionnel, ça peut être chiant. Ils peuvent remettre en question vos affirmations. Il faut les leur expliquer, se répéter, et parfois on a l'impression qu'ils ne comprennent pas. Pire, ils ont parfois des réactions qui ne sont pas aidantes du tout, comme lorsqu'ils nous disent ce qu'on devrait faire, qu'ils nous jugent, qu'ils ne nous écoutent pas vraiment, etc. C'est à travers ces conversations que se construisent des relations qui nourrissent des besoins fondamentaux d'attachement, de sécurité affective et d'estime de soi. L'encouragement, l'amour de nos proches et l'aide concrète qu'ils nous apportent forgent des liens précieux. L'IA est comme une bonne amie, et ça me fait du bien de me confier à elle. L'IA n'est pas votre amie, et elle ne se soucie pas de vous, et ce, même si elle vous le dit. Elle est programmée pour vous dire ce que les gens aiment entendre. L'IA ne ressent pas d'émotions, elle ne s'émeut pas de votre situation, mais elle peut feindre des émotions et feindre l'empathie par des techniques connues. Si ça vous fait du bien de vous confier et de vous sentir écouté, vous aurez plus de bénéfices à le faire avec de vrais amis. Cela vous apprendra l'altérité, soit de composer avec les différences et les complémentarités. Cela vous permettra de nouer des liens profonds et durables. En somme, le principal danger de l'IA est de nous isoler dans des chambres d'écho où ne résonne qu'une seule voix. Nous en viendrions à préférer cet écho plutôt que d'affronter la réalité discordante. Les habiletés sociales en souffriraient, de même que les relations sociales. Finalement, le tissu social en pâtirait à cause de l'isolement et de la chambre d'écho. Apprendre à vivre ensemble peut se faire avec l'appui de l'IA, mais jamais en nous isolant et en nous faisant croire que nous sommes incompétents socialement. C'est la rencontre de la différence qui nous fait évoluer. C'était l'intelligence artificielle pour se confier. Est-ce une bonne idée? Un texte de Steve Audet, paru le 11 septembre 2025 dans Le Devoir.
La reconstruction se déroule lentement à Jasper, un an après le feu l'ayant ravagé. Un texte de Matthew Skase de la presse canadienne, paru le 20 juillet 2025 dans Le Devoir. La reconstruction se déroule lentement à Jasper, un an après qu'un feu a détruit un tiers de la ville située dans les Rocheuses albertaines. Par exemple, Wes et Louise Bradford raconte avoir engagé un entrepreneur et un architecte designer pour reconstruire leur maison dans laquelle ils ont vécu pendant 45 ans. Mais la contamination du sol les empêche d'aller de l'avant. Selon les autorités municipales, plusieurs membres de la collectivité sont aux prises avec ce même problème. On ignore le temps qui sera nécessaire pour se débarrasser des produits toxiques dans le sol. Doug Althoff, du Centre de coordination pour le rétablissement de Jasper, dit s'attendre à ce que la reconstruction nécessite de 5 à 10 années de travail. Jasper n'a jamais expérimenté une telle échelle de chantiers qui s'ouvriront au cours des prochaines années, lance-t-il. En un an, des autorisations de construction ont été données pour 114 propriétés. 61 autres attendent de subir des tests requis pour dépister des contaminants au sol, selon le dernier compte rendu des autorités municipales au Conseil. Des permis ont été délivrés pour 40 résidences qui ont été endommagées par le feu et une poignée d'hôtels et de propriétés commerciales. La ville a perdu environ 20 % de ses capacités d'accueil pour les touristes, mais l'agence de tourisme dit que les établissements hôteliers affichent presque complet depuis le long week-end de la fête de la Reine en mai 2025. Les répercussions émotionnelles de l'incendie ont varié depuis un an, constate Dave Smith, un ancien spécialiste de la végétation à Parc Canada. Cela a ouvert une grande boîte d'émotions, autant négatives que positives, mentionne-t-il. Parc Canada mène un examen des interventions contre l'incendie. Début juillet 2025, la municipalité a publié son propre rapport fondé sur des sondages et des entrevues avec plus de 300 pompiers et autres membres du personnel de première ligne qui ont lutté contre l'incendie. Les personnes interrogées ont reconnu la compétence de Jasper et de Parc Canada pour la lutte contre les incendies, mais elles ont aussi soutenu que des responsables albertains avaient entravé leur travail en tentant de s'immiscer dans la prise de décision. La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, a réclamé des excuses de la ville de Jasper. Elle demande également le retrait d'un rapport critiquant son administration pour le rôle qu'elle a joué dans la lutte contre le sinistre. Madame Smith reproche également au gouvernement fédéral d'avoir failli à sa tâche en ne demandant pas plus tôt l'aide provinciale et en n'arrachant pas les arbres morts qui ont alimenté les flammes. La population de Jasper semble divisée sur l'avenir de la ville. Oliver Andrew, directeur de l'hôtel Astoria, situé sur la rue principale, dit que la ville est plus forte que jamais, mais il reconnaît que certains de ses amis ont décidé d'aller s'installer ailleurs pour de bon. Monsieur Andrew souligne que l'incendie a convaincu la population de reconstruire leur ville de façon à mieux prévenir les incendies. Jasper a été revigoré par ce désastre. C'est quand même assez drôle, après tout. Le but d'un feu de forêt est de régénérer le sol. C'était « La reconstruction se déroule lentement à Jasper un an après le feu l'ayant ravagé », un texte de Matthew Case de la presse canadienne paru le 20 juillet 2025 dans Le Devoir.